Alors, on va parler de l'appel, de la vocation. Donc, c'est un thème qui peut nous inquiéter quand on est jeune. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé au début de ce topo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va me tomber sur la figure? Ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Et surtout, ce qui nous rassure, c'est que ce n'est pas Frère Jean-Paul qui vous appelle, c'est le Seigneur. Donc, c'est en lui que se fonde notre appel. Les deux points que je vais développer ce matin, ils sont assez brefs, c'est de vous dire que l'appel, il est d'abord universel et ensuite il est personnel. D'accord? C'est assez simple à retenir. Deux points très simples. Le lien avec le thème de l'espérance, le fait d'assumer la vocation chrétienne va faire de nous des signes, des témoins d'espérance. Voilà, on reviendra là-dessus. Donc la vocation, l'appel de Dieu, il est d'abord universel. C'est l'appel à la sainteté. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu par excellence. C'est lui qui appelle l'homme à se convertir et à devenir saint. C'est lui qui l'appelle à devenir son fils bien-aimé, son enfant bien-aimé, sa fille bien-aimée. Et nul ne peut venir à Dieu, nul ne peut répondre à cet appel sans la grâce de Dieu. Notre appel, notre vocation, elle est une promesse de Dieu, une promesse que Dieu va réaliser. C'est là où elle est gage d'espérance pour nous. Vous voyez, c'est pas la promesse de quelqu'un qui est impuissant à nous aider ou impuissant ou détaché de cette destinée qu'il nous donne. Au contraire, il est le premier impliqué, c'est le premier protagoniste de notre vocation. C'est lui qui nous appelle à devenir saints et c'est lui qui nous sanctifie. Donc c'est son œuvre. Et c'est un appel qui nous met en relation avec Dieu, Trinité. Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père, si mon Père ne l'attire. Vous voyez que c'est quelque chose qui vient nous rejoindre très profondément et dont on n'a pas forcément conscience. Nous sommes attirés par Dieu, notre Père, à venir auprès de Jésus, entendre une parole sur ce Dieu qui nous aime. Nous sommes attirés par Dieu, notre Père, à contempler Jésus, à mieux le connaître. Et ça nous traverse. Il est aussi, donc, il est, cet appel, il passe forcément par Jésus. On ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus. Et il est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint par excellence, parce que c'est une œuvre d'amour. Et toute œuvre de Dieu qui est en rapport à l'amour de Dieu est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ce travail de l'Esprit Saint, c'est celui qui concerne plus particulièrement le fait que c'est quelque chose de personnel, quelque chose qui nous rejoint intimement. Voilà. Juste pour vous montrer que cet appel est personnel, et puis, enfin, voilà, ça je l'ai dit, je voudrais ajouter que même notre. Pardon, ce que je viens de vous dire là, c'est que cet appel est universel, pardon, et il est l'œuvre de Dieu. La réponse qu'on donne à cet appel est aussi l'œuvre de Dieu en nous. C'est pas, on répond pas avec nos petits bras musclés comme les petits pimousses super forts. Ouais, c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, c'est Dieu qui œuvre en nous pour nous rendre capables de répondre à son appel. À son appel. Ouais. Dieu veut que nous devenions ses fils, ses enfants. Cette vie, c'est pour nous, cette vocation, c'est l'accueil de la grâce divine, l'accueil de la vie divine. Donc c'est l'accueil d'une vie qui nous dépasse complètement. C'est quelque chose qui nous transcende, qui transcende notre nature humaine, qui n'est pas à notre taille. Cette grâce, c'est la grâce de notre baptême, c'est celle qui est donnée à notre baptême et dont on est sûr, parce que le propre des sacrements, c'est nous conférer une grâce dont on est sûr de l'avoir reçue. Vous voyez, à partir du moment où vous avez reçu l'eau du baptême et que le prêtre a dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », vous êtes certain d'être enfant de Dieu. C'est le Christ qui l'a institué. D'accord ? C'est le propre des sacrements. Et notre vie chrétienne est fondée sur cette vie sacramentelle sur laquelle on peut vraiment s'appuyer parce qu'on en est certain. Oui, c'est on a Dieu qui s'est engagé pleinement à nous donner la vie divine par ces sacrements-là, par ces signes-là. D'accord ? Et nous, ça nous conforte énormément d'avoir ces signes, vous voyez, qui nous parlent humainement de manière très, très symbolique, mais très charnelle et très humaine. Cette grâce du baptême, c'est une grâce de naître du Christ. Donc notre vocation, c'est sans cesse renaître du Christ, sans cesse repartir du Christ, revivre de lui. C'est une grâce aussi qui est la grâce de l'Eucharistie, où on est nourri du Christ en permanence, de son amour, nourri de la vie divine. C'est Dieu lui-même qui se fait nourriture de notre vocation, de cet appel. C'est lui qui l'entretient. C'est pour ça qu'on vient sans cesse à l'Eucharistie, pour ne pas être complètement atrophié dans notre vie divine, mais au contraire qu'elle puisse se développer en nous. Et puis, c'est la grâce d'être soigné, d'être choyé, d'être consolé dans le sacrement du pardon. On est pardonné, on vit de cette miséricorde. Le Christ a donné sa vie pour que nous obtenions ce pardon, pour nous faire vivre de cette miséricorde. On est vraiment là sur le chemin universel, vous voyez, le chemin général qui est dont on vit tous, dont on doit tous vivre, d'accord ? Nous avons tous la même vocation, là, on voit bien. Nous devons vivre du Christ, naître de lui, se nourrir de sa vie et se nourrir de sa miséricorde, recevoir cette miséricorde et avancer vers le ciel dont je pense, Sylvain Marie, de vous parler au moins un tout petit peu parce que c'est le but vers lequel nous marchons. Et c'est notre espérance, oui. Cette vie divine, elle sera pleinement épanouie au ciel. Pour l'instant, elle est peu tangible, oui. On n'est pas encore dans le mode de vie habituel de Dieu, qui est la gloire, oui. Dieu, habituellement, il ne vit pas de manière cachée comme ça, comme sur la terre, où on a du mal à discerner sa présence. Au contraire, Dieu est infiniment glorieux. Et puis, ce qui va aussi toucher nos activités, c'est que nous recevons même un sacrement qui fait de nous ses témoins. Restez dans la ville, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. C'est ce que dit Jésus avant de monter au ciel, avant l'ascension. Il demande à ses apôtres de rester dans la ville pour recevoir cette force qui va faire d'eux ses témoins. Pour le monde entier. Donc notre vocation, notre grâce chrétienne, elle est une grâce de témoin. Elle nous assure que nous aurons la force de témoigner. Quand on sera en situation de parler du Christ ou d'agir en son nom, l'Esprit-Saint sera là pour nous assister. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un feu d'artifice à côté de nous. Au contraire, c'est un feu d'artifice intérieur. L'Esprit-Saint, c'est le paraclet, le second paraclet, le défenseur, qui est envoyé dans notre cœur pour nous défendre intérieurement. C'est lui qui convainc notre cœur qu'il est aimé de Dieu en Jésus-Christ. Quand Saint-Pierre s'adresse, la première fois que Saint-Pierre s'adresse à Jérusalem, après la Pentecôte, il parle de ce qui s'est passé ces jours-ci. Il leur explique que celui que vous avez crucifié, c'est le Fils de Dieu. Les gens écoutent. Et d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit, Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez, on voit bien qu'ils ont le cœur transpercé par la parole de Saint-Pierre, et celui qui transperce leur cœur, entre guillemets, Saint-Luc dit, ils ont le cœur transpercé, c'est une image. Qui est en train de travailler dans leur cœur? C'est l'Esprit-Saint. Oui. L'Esprit-Saint inspire des paroles à Saint-Pierre qui vont toucher la multitude. Là, ils sont 3000. 3000 à recevoir en même temps une vocation, si vous voulez, un appel à suivre le Christ, à être baptisé et à se convertir. Saint-Pierre, il parle du Christ, le Christ qui nous a été envoyé pour nous manifester l'amour du Père, qu'il l'a fait une fois pour toutes. Nous, on en parle entre nous, on réévoque cette vie du Christ qui nous a été donnée, ce qu'a fait le Christ. Et pendant ce temps-là, l'Esprit-Saint travaille notre cœur pour nous convaincre intérieurement que ce que le Christ a fait, c'est pour moi, c'est pour toi. Il t'a aimé quand il était sur la croix, c'est pour toi qu'il a livré sa vie. C'est le travail de l'Esprit-Saint que de toucher notre cœur pour nous montrer que l'amour de Dieu qui a été manifesté sur la croix est pour nous personnellement. Donc cette vocation, elle est à la fois universelle. Si vous voulez, vous avez la même vocation que votre voisin. On est tous appelés à devenir enfants de Dieu. Et à la fois, elle est très personnelle et vous ne savez pas ce que l'Esprit-Saint est en train de faire dans le cœur de votre voisin. À ce niveau-là, justement, de l'appel. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint est en train de dévoiler à votre voisin? Là, ils étaient 3000. Il y a eu 3000 œuvres de l'Esprit-Saint différentes. Oui, c'est très, très personnel. C'est pour ça qu'on conseille, quand on reçoit un appel, quand on reçoit cette visite de l'Esprit-Saint, quand on sent que l'Esprit-Saint travaille notre cœur, ce n'est pas le moment d'aller le proclamer sur les toits. Au contraire, c'est quelque chose de personnel qu'on garde en secret. Et notre cœur est comme un four. C'est un père de l'Église qui dit ça. Notre cœur est comme un four. Et il ne faut pas en ouvrir la porte, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre la porte, le four se refroidit. Vous savez, quand on cuit des pizzas au four à pain, eh bien, on fait attention à ce que le four reste chaud. Eh bien, ce travail d'amour de l'Esprit-Saint dans notre cœur, ce n'est pas un travail qu'on va répandre tous les jours en donnant son témoignage, etc., à tout le monde. C'est quelque chose d'intime, dont on parle peu, d'accord ? Donc, qu'on confie à un père spirituel, à quelqu'un qui peut nous conseiller. Et on évite de le répandre comme ça, partout, à tort et à travers. C'est quelque chose de personnel. Quand on a découvert le prix de la grâce que Dieu nous donne, on a le cœur transpercé, comme les gens qui entendent Saint-Pierre. On a le cœur transpercé de savoir que Dieu a livré sa vie pour nous donner la vie divine. Il n'a pas hésité à perdre sa vie, à livrer sa vie, pour pouvoir donner à chacun de nous cette vie divine, nous faire entrer, on va dire, malgré notre liberté. C'est-à-dire que Dieu nous travaille dans notre cœur pour que nous répondions librement. Et plus on avance dans la réponse à son amour, plus on avance dans la fidélité à cet appel, plus notre liberté augmente, jusqu'à ce qu'on soit aussi libre d'aimer que Dieu lui-même. Et on est de plus en plus libre de dire oui, si vous voulez. C'est pour ça que peut-être une vocation, quand Dieu rejoint un nouveau converti, où il lui donne de le rencontrer et lui donne sa vocation en même temps, il y a quelque chose d'un peu spectaculaire, parce qu'il y a tout le programme qui est livré en même temps. Tandis que pour des gens qui ont, comme Obélix, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, eh bien, les choses peuvent être bien plus dispersées, à savoir que ce qui nous touche, c'est peut-être aussi ce qui est, ce qui nous appartient au sens de ce qui a été donné à l'Église. Je donne un exemple. Maintenant, si vous voulez, la vocation de Saint Jean, la vocation de Saint Pierre, la vocation de Saint Paul, elles ont été personnelles. Ça a été le travail de l'Esprit personnel dans leur cœur. Mais maintenant, ça nous appartient, ça nous a été communiqué dans la parole de Dieu. Et on peut se l'approprier en quelque sorte, on peut en faire notre bien propre. Ce qui fait que on peut tout à fait être amené à suivre Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, sans que, par exemple, si vous êtes appelé à suivre Saint Paul, vous n'êtes pas obligé d'aller à Damas, de perdre la vue, etc., pour entrer dans le chemin de Saint Paul. Vous y entrez dans la prière. En méditant sur cet évangile-là et en laissant l'Esprit-Saint vous travailler. Vous voyez, l'Esprit-Saint nous rejoint à travers l'appel des autres aussi. Je dis ça parce que il est fort probable que nombre d'entre vous soient appelés à orienter leur vie sans attendre un événement charismatique qui va leur dire explicitement « je veux que tu fasses ceci ou cela ». Oui, ça arrive, mais ça n'arrive pas forcément à des chrétiens très pratiquants, oui, ou à des chrétiens qui ont beaucoup reçu déjà et qui ont en fait déjà les éléments pour choisir. Vous comprenez ? Donc quand on découvre la valeur, le prix de la grâce que Dieu nous donne, cette invitation, cet appel à le suivre, quand on découvre le prix que Dieu y a mis, on a forcément, enfin, on va dire, naturellement, naît en nous le désir de nous consacrer à lui. C'est la consécration baptismale qui est notre réponse, et c'est aussi la consécration, dans le prolongement de cela, c'est la consécration religieuse. C'est-à-dire que tout, on a envie, comme on voit combien on est aimé, on a simplement envie de répondre à cet amour. Vous voyez? C'est la vocation religieuse, elle vient, on va dire presque naturellement, dans la continuité de la grâce baptismale. Pourtant, elle est surnaturelle, oui. Elle n'est pas, c'est pas avec nos petits bras musclés qu'on répond à l'appel de Dieu à entrer dans la vie religieuse, parce que il y a quelque chose de contre nature. Naturellement, on est plutôt fait pour se marier, engendrer, etc. Mais notre cœur est naturellement kidnappé, quoi, par Dieu. Ouais. On sent que notre cœur est saisi. Ouais. Et le baptisé, quand il se laisse rejoindre par Dieu, dans son cœur, par l'Esprit Saint, par ce visage du Christ qui s'affiche en lui, eh bien, il a né en lui en même temps ce désir de répondre. Et là, c'est comme la parabole de celui qui découvre un trésor dans un champ. Il y avait un champ, un trésor caché, nous dit Jésus. Le royaume des cieux, il est comme un trésor caché dans un champ. Le gars, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Voilà, c'est la même chose. On vend tout ce qu'on aime, tout ce que notre cœur aime pour pouvoir acheter ce champ, nous approprier ce champ. C'est comme la parabole de la perle précieuse, celui qui cherche partout une perle précieuse et qui la trouve. Alors là, il vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle-là, parce qu'elle vaut bien plus que les autres. D'accord ? Donc ça nous parle de cette vie religieuse qui a pour but de nous consacrer totalement. Oui, on vend tout ce qu'on a pour suivre le Christ. Et puis le but là, c'est d'acheter ce champ. Vous voyez, c'est d'acquérir ce champ. Là, ce qu'on veut, c'est contempler cette grâce qui nous est donnée dans sa source. On veut contempler cet appel personnel que Dieu nous fait dans le Christ. On veut contempler ce visage du Christ qui me dit « Je t'aime, suis-moi, viens ». Et puis, je vous disais que la vie chrétienne, naturellement ou automatiquement, elle est une vie qui nous envoie en mission parce que le Christ veut faire de chacun d'entre nous des témoins. Il nous confirme pour cela. Il ne veut pas qu'il y ait des chrétiens qui restent à se tourner les pouces en se disant qu'est-ce que c'est chouette d'être chrétien. D'accord? Non, il veut, naturellement, dans notre cœur, quand nous devenons de plus en plus chrétiens, quand nous contemplons de plus en plus le visage du Christ, naturellement, nous avons envie de le transmettre. Et même si on est carmélite, oui, la petite Thérèse, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, de Lisieux, elle voulait être missionnaire, elle voulait être prêtre pour pouvoir donner le Christ. Oui. Donc, il y a des choses contradictoires dans l'appel, quelque part. Ça part dans tous les sens. Ouais. Mais c'est à travers ça, c'est simplement le désir que Dieu met dans notre cœur de vivre comme lui. Lui-même, il veut partager son amour lui-même, il veut se faire connaître lui-même, il veut rejoindre chacun qui sont autour de nous, et il le veut en passant par nous, oui. Soit par notre prière, soit par notre action, ou les deux. Oui. Ça, c'est la mission apostolique du chrétien. Elle est encore quelque chose qui naît naturellement, universellement, pour chacun. Et puis, ben certains, Jésus nous en a, justement, on va parler des gens comme ça, des pères, des prêtres, et bien le Christ a institué certains pour nourrir cette vie de la grâce, pour prendre soin de la vie de la grâce des baptisés. Ça va être le sacerdoce. Il appelle certains à vivre pour servir la sanctification des autres, de se mettre au service de la sainteté de tout son corps. Et cet appel, il est un appel divin, au sens où on peut l'entendre de Jésus ou du Père qui nous dit « Viens, suis-moi et paie mes brebis », par exemple, pour saint Pierre, ou je ne saurais pas dire comment... Pour saint Paul, si, c'est le fait de le... va le proclamer à ceux qui ne l'ont pas entendu, par exemple. Ouais. Ça peut être quelque chose qui nous rejoint très personnellement, très profondément, ça. Et qui donne une orientation à notre vie chrétienne, parce qu'on va choisir de répondre à l'appel de Dieu en nous mettant au service de l'Église, si elle a besoin. Et cet appel, il est non seulement, on peut non seulement l'entendre de Dieu, mais aussi on peut l'entendre dans le cœur de l'Église. Parce que les chrétiens eux-mêmes crèvent la dalle. Parce que ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ ont faim de le connaître. Vous voyez, donc cet appel, on peut tout à fait l'écouter dans le cœur de nos frères et sœurs, en se disant, mais oui, ils ont faim de sainteté. Ça peut nous rejoindre très profondément, ça. Vous voyez, ça peut nous motiver très profondément à donner notre vie. Je vous ai dit que l'appel à la sainteté, c'est un appel qui vient de Dieu, qui nous fait entrer en relation avec la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est une grâce que de répondre à son appel, et c'est appuyé, nourri par la grâce qu'on répond à l'appel de Dieu. Et puis, c'est une rencontre personnelle du Christ. C'est-à-dire, souvent, quand on rencontre le Christ... Dans cette première rencontre, il y a caché dedans un appel, un programme prophétique, si vous voulez, une espèce de prophétie sur toute votre vie. C'est ce qu'on regarde dans les évangiles. Vous pouvez regarder les rencontres que Jésus fait de saint Pierre, de saint Paul, de saint Jean. Ça leur trace un azimut, vous voyez, une direction qui va orienter toute leur vie. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ce qui se passe dans votre cœur, même si vous êtes très jeune. Parce que Dieu, il rigole pas, lui. Oui. Il a peut-être plus de mal avec des amnésiques comme moi, parce que moi, j'oublie pas mal de choses. Mais même pour les amnésiques, il a un programme de vie. Il a une manière dont l'amnésique, il va pouvoir témoigner de Dieu, bien qu'il ne se souvienne pas de ce qu'il a vécu hier. Okay? Il y a un... C'est ça qui est très beau dans la vocation chrétienne et qui justement fait de nous des signes d'espérance, c'est que Dieu a un programme, entre guillemets, ou un sens. Il est capable de donner sens à toute vie humaine qui répond à son appel. Vous voyez, même si on a une blessure, un pet au casque, ou je sais pas quoi, il est capable d'assumer notre fragilité, notre petitesse, nos limites, et nous faire témoigner de lui à notre manière, d'une manière qui sera unique. Cette alliance personnelle qui commence dans la rencontre du Christ avec celui qui va lui répondre, eh bien, c'est une alliance qui nous plonge dans la foi, qui nous oblige à la foi, qui nous contraint à la foi. On est contraint de croire, hein. Vous voyez, on est obligé de croire. C'est-à-dire que c'est le mode dans lequel on va devoir répondre. Donc, même le fait qu'on répond à un appel va devenir objet de foi. C'est-à-dire que c'est le... Et plus ça va, plus il va falloir poser des actes de foi, comme quoi, bah oui, je réponds à un appel que Dieu m'a donné, et je suis pas en train de faire mon business, ou c'est pas moi qui ai une idée sur ma vie, et c'est normal, quelque part, que j'en ai pas, parce que je réponds à celui qui a une idée sur moi. D'accord ? C'est pas forcément clair, la vocation. Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on découvre en répondant, au fur et à mesure. Moi, j'aime beaucoup prendre les actes des apôtres et d'essayer de comprendre comment Saint Paul, qui agit dans les actes des apôtres, agit dans la foi. C'est-à-dire sans trop savoir ce qu'il doit faire, et quand il le fait, en posant un acte de foi, que c'est ça qu'il doit faire. Quand vous regardez Saint Paul comme ça, vous dites, ah ben oui, en fait, ah oui, c'est vrai qu'il a plutôt la foi, hein. C'est quand même musclé. Quand vous regardez toute la vie de Saint Paul comme quelqu'un qui agit sans trop savoir si c'est ça qu'il doit faire, ça met la barre assez haut. C'est-à-dire que les actes de foi peuvent vous demander de sauter très haut, de faire des choses complètement soin de soi au niveau humain. L'exemple, c'est quand le moment où Saint Paul s'approprie sa vocation, c'est le moment où il va reproduire pour un autre ce qu'il a reçu sur le chemin de Damas quand il a été rendu aveugle par Dieu et quand il lui a été donné la foi, quand Dieu l'a convaincu qu'il était en train de travailler contre le Christ, qu'il était en train de persécuter son Église. Il l'a convaincu, Saint Paul, d'être antichrist, si vous voulez. Et c'est comme ça que ça commence. Il est convaincu par Dieu qu'il est complètement hors-circuit, il travaille contre Dieu. Donc pour un juif, vous comprenez que ça, il part de loin. Et lui, Saint Paul, la première manière dont il va évangéliser, c'est de rendre quelqu'un aveugle. Donc c'est quand même une évangélisation un peu bizarre. C'est-à-dire que on comprend pourquoi Saint-Marc s'est barré, parce que Saint-Marc, lui, au contraire, il a vu Jésus délivrer des aveugles, et là, il est avec Saint-Paul qui rend aveugle un type. Alors, vous faites comment, oui. La vocation, c'est aussi très personnel, et ça fait que le témoignage de chacun revient pas forcément aux autres. Vous voyez, on n'est pas forcément fait pour travailler ensemble et répondre à l'appel de Dieu ensemble, parce que nous, on est plus touchés par Saint-Paul, si vous voulez. Alors, oui, Saint-Marc, ça nous va bien, mais c'est moins, je sais pas. Oui, on sait que Jésus rend la vue aux aveugles, mais ça nous parle moins. Ou c'est l'inverse. Moi, c'est plutôt Jésus qui soigne, qui vient au contact des pauvres et lui rend la vue. Donc, je comprends pas le miracle que fait Saint-Paul. Donc, c'est une alliance personnelle qui doit nous plonger dans la foi, qui nous fait entrer dans la foi et qui nous invite à donner la vie. C'est très important, ça. Là, il y a une dimension vitale de notre vocation. Nous sommes appelés à porter la vie, oui, à donner notre vie pour nos frères. Et puis cette suite personnelle, eh ben, elle peut devenir aussi chemin pour les autres. Comme saint Paul, eh bien, quand on lit sa vie, ça devient aussi chemin pour nous, ça fait sens pour nous. Et quand on s'approche de lui, ben, on a envie peut-être de suivre Jésus comme lui. Eh bien, de même pour notre prochain. Quand lui, de l'extérieur, il voit que la manière dont on suit le Christ, ça peut tout à fait le rejoindre et devenir une petite bille qui va compter pour lui, sur son chemin. Alors, on n'est pas tous appelés à devenir fondateurs de je sais pas quoi, d'accord ? Mais vous voyez, c'est analogique, c'est-à-dire que le fait d'avoir quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu, ben, c'est comme être avec un témoin de Dieu. Je termine simplement en vous lisant une citation du pape François. Alors, pour ceux qui ont dormi pendant les 20 minutes, il lit page 363, il y a un topo de secours sur la vocation. Voilà, si vous, dans le Magnificat, si vous voulez d'autres choses, eh bien, il y a une suite ou il y a autre chose dans votre Magnificat. Et je lis dans le premier paragraphe la citation du pape François. Ainsi, comme l'a dit le pape François, la vocation inclut l'appel à la vie, l'appel à l'amitié avec lui, l'appel à la sainteté. Elle place notre vie face à Dieu qui nous aime. Et elle nous permet de comprendre que rien n'est le fruit d'un chaos privé de sens, mais que tout peut être intégré sur un chemin de réponse au Seigneur qui a un plan magnifique pour nous. C'est en ça que assumer cet appel à la sainteté, y répondre dans notre cœur et puis officiellement dans l'Église, eh bien, ça fait de nous des témoins, des pèlerins d'espérance, des témoins de l'espérance, des signes d'espérance. Parce que, il n'y a qu'à voir les statues dans l'Église, dans toutes les Églises, on représente les martyrs avec soit leur hache sur la tête, leur flèche dans le cœur, etc. Même les tuiles qu'on se prend dans la vie, elles sont assumées par cette vocation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il vous arrive des malheurs que votre vocation disparaît. Au contraire, c'est une manière de nous unir à Dieu, de le suivre. Donc vous voyez que ça, c'est un signe fort pour le monde, pour ceux qui sont blessés par la vie, mais sans aucune promesse derrière. Tandis que nous, la promesse que Dieu nous fait, elle est solide, elle est fiable, elle est vraie. Amen. Est-ce que vous avez des questions ?
Qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas à l'appel de Dieu ?
Qu'est-ce qu'il se passe si on ne répond pas à l'appel de Dieu ? On va en enfer. Au sens où l'appel de Dieu à la sainteté, il n'est pas optionnel.
Non, pas l'appel de Dieu à la sainteté, l'appel de Dieu personnel.
Eh bien, c'est personnel, l'appel de Dieu à la sainteté. Ça va être la manière dont Dieu nous rejoint. Alors après, je pense que ta question, c'est qu'est-ce qui se passe si Dieu m'appelle à telle vocation, à tel état de vie, et que je ne réponds pas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là, je voulais te faire peur au début. Mais en fait, oui, j'ai lié les deux parce que c'est... Ce que je voulais que vous entendiez d'abord, c'est que cet appel, il est d'abord universel parce que c'est d'abord un appel à aimer, à vivre de la charité, et c'est ça qui prime. Et peut-être que, en plus, dans votre vie, vous aurez peut-être plusieurs états de vie. Il y a des saints, des saintes qui se sont déjà mariés, ensuite qui sont devenus veufs, ensuite ils sont devenus fondateurs religieux. Donc ça évolue, c'est bien plus secondaire. Vous voyez, et c'est moins important quelque part. Alors certes, quand on est jeune, ça nous inquiète, on se dit « mais qu'est-ce que je dois faire ?» et tout. C'est lourdingue, mais ce qui prime sur notre vie, c'est cet appel personnel de Dieu à l'aimer, à répondre avec sa grâce, à son amour. Vous voyez ? Et les choses s'ordonnent quand on répond à ça. Vous voyez ? Si on met les choses à l'envers, on ne trouve pas son siège dans le wagon, parce qu'on n'a même pas trouvé le wagon, quoi. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui est assis à notre place, 78. Oui, mais vous, c'est le wagon 15. Ah, pardon. Oui, il y a un ordre. Et l'ordre, c'est d'abord de répondre à l'amour de Dieu qui nous rejoint et qui veut que nous accueillions sa grâce. Vous voyez, c'est là-dessus qu'on se focalise pour pouvoir même avoir des éléments justement sur cette deuxième question, à savoir où est-ce que Dieu nous attend, quel est le chemin qui trace pour nous. Et encore une fois, c'est très différent pour quelqu'un qui fait une rencontre quand il est adulte du Seigneur, et peut-être dans cette rencontre, il est très lucide de ce qui se passe, plutôt que quelqu'un qui naît dedans, dans la communauté chrétienne, et qui reçoit tout au fur et à mesure que tout s'éveille en lui, et qu'il est appelé à tout ordonner, etc. Donc les choses sont très très variées. Alors qu'est-ce qui se passe si on ne répond pas à l'appel de Dieu? Ça dépend à quel niveau on est, quoi. Si c'est que tu ne réponds pas à la grâce de Dieu, bah oui, c'est dangereux, ça. Au contraire, celui qui ne veut pas entrer dans la grâce de Dieu, répondre à la grâce de Dieu, qui s'y ferme, lui, il se destine à l'enfer, oui, vraiment. La grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est le fait que le Christ ayant livré sa vie pour nous, il siège auprès de Dieu, et que maintenant, quand on s'approche de lui, il est capable de nous donner accès auprès de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un ticket gratuit qu'il nous donne, et qu'il l'a mérité pour nous, qu'il l'a acheté pour nous, il les a, il nous les donne. Et donc, on trouve accès auprès de Dieu, gratuitement. Okay, on n'est pas obligé de se retrousser les manches, de parcourir toute la terre, de faire tous les pèlerinages à Rome qu'il faut, etc. Non, tout est déjà donné, offert par le Christ. Donc les choses sont déjà méritées par le Christ pour nous. Donc on contemple ce Christ, Jésus, qui a livré sa vie pour nous. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous faire entrer dans cette communion avec Dieu, dans cette amitié avec Dieu. Donc notre sainteté, elle nous est déjà donnée, elle est déjà acquise par le Christ. Et on doit y consentir. Donc on consent à notre vocation, si vous voulez. On consent. Quand Dieu nous appelle à ceci ou cela, c'est toujours un peu... si je te montre ça, ça t'irait? Voilà. Vous voyez, ça peut être très délicat. C'est-à-dire que ça peut être... je vous dis, au fur et à mesure qu'on répond à l'appel de Dieu, on grandit dans la liberté. Donc, pour des chrétiens plus avancés, les choses vont se faire de manière très ténue. Parce que vous êtes déjà très, très libre de répondre à la grâce de Dieu, d'orienter votre vie un petit peu plus par là ou un petit peu plus par là. Il va falloir choisir d'aller au ciel en choisissant les bons moyens. Donc, ça veut dire que je vais choisir des moyens qui sont adaptés à cette fin. Par exemple, les trois conseils évangéliques, la pauvreté, chasteté, obéissance. C'est les trois conseils que l'Église donne pour vivre de la charité, dans un état de vie qui nous pousse à vivre de la charité sans cesse. Quand on s'applique à vivre de la pauvreté, de l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance, l'esprit de chasteté, notre humanité est poussée à vivre dans la charité. Donc ça, c'est les trois conseils de l'Évangile. On peut se dire, oula, c'est vraiment très proche de la fin, c'est des beaux conseils, mais pour moi, là, ça va être un peu dur. Je vais peut-être trouver des manières de vivre l'Évangile un petit peu plus adapté à l'état de vie dans lequel je suis ou à la situation présente. Et donc, dans l'accompagnement spirituel, avec votre père spirituel, vous pouvez essayer de trouver quels sont les moyens pour vivre de la grâce de Dieu, qui sont plus adaptés à votre vie d'étudiant, à là où vous en êtes aujourd'hui.
Relativement, quand même, cet appel universel, nous sommes tous appelés à être saints. Donc, nous allons tous travailler à être saints. Même si elle est universelle, elle est aussi personnelle. Mais Dieu nous appelle en général, mais il m'appelle personnellement à être saint. Ma sainteté ne sera pas la sainteté des prêtres en Pologne. Non. Tu ne gazes pas suivant la barre. Alors, tu obéis de dans un pas bien caractère. Pas aspect ça seul. Donc, en fait, Dieu appelle chacun de nous. Au-delà de l'état de vie, il nous appelle à être.
Génération
En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé un bon séjour comme moi dans ce petit village ou bien dans cette ville de Foligno. J'espère que vous avez appris de l'italien. J'espère que vous avez reçu, en fait, tout simplement la gloire que Dieu a voulu donner à chacun de nous. Et que vous n'allez pas faire comme ces Israélites qui vont échanger l'or qu'ils ont reçu pour recevoir un veau. Oui, dans la première lecture, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous avez été attentifs comme moi. Ils ont été conduits par Dieu pour les faire sortir d'Égypte, pour les faire sortir de l'esclavage. Ils ont marché à travers le désert. Dieu les a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Et là, ils arrivent au pied de la montagne. Moïse part pour quelques jours et ils choisissent de dire « Leur Dieu, c'est un veau ». Toi alors, qui est ton Dieu? Oui, après l'expérience que tu as fait dans cette ville, après l'expérience que tu as fait dans la famille qui t'a accueilli, après l'expérience que tu as fait depuis 4 jours, qui est ton Dieu? Qui t'a sauvé? En fait, qui te conduit au quotidien? Qui est celui-là même qui t'invite à travers ce pèlerinage? Qui, en fait, tu es en train de suivre. Si tu es en train de me suivre, je te conseille de prendre ton billet de train et de rentrer. C'est vrai, je vous ai proposé quelque chose, mais la personne que vous suivez, ce n'est pas moi. Et c'est vraiment l'occasion de le rappeler aujourd'hui, parce que à Rome, vous allez être un peu laissé à vous-même. Et si vous n'êtes pas à la suite du Christ, si ce n'est pas le Christ que vous cherchez, vous allez en fait échanger votre gloire contre un veau, contre l'image d'un animal mangeur d'herbe, contre la vie d'un ruminant. Or, ce n'est pas le ruminant qui vous a sauvé, ce n'est pas le ruminant qui vous a invité à ce pèlerinage. Et nous pouvons décliner cela à travers ce que chacun de nous peut imaginer. En fait, peut-être je vais changer mon pèlerinage contre des temps passés sur le téléphone. Peut-être je vais changer mon pèlerinage contre des papotages et je ne vais pas prendre le temps pour le Seigneur. Je vais peut-être changer mon pèlerinage, le temps que j'aurais dû consacrer au Seigneur, tout simplement contre les médisances, à gauche et à droite, et je ne prends pas le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me transmettre? Comment faire pour ne pas être comme ces Juifs? Comment faire pour ne pas être comme ces Israéliens qui, après avoir, ou à qui Jésus parle en parabole, on entendait déjà la semaine dernière, Dieu a fermé leurs oreilles. Mais est-ce que c'est Dieu qui ferme leurs oreilles ou c'est nous qui avons du mal à entendre? Aujourd'hui, le Seigneur parle, donne deux paraboles pour ce qui a été semé. Toi, qu'est-ce qui a été semé dans ton cœur, dans cette ville? Qu'est-ce qui a été semé dans ton cœur pendant ces 4 jours et qu'il faudrait prendre soin? Qu'est-ce qui a été semé dans ta vie et qu'il va falloir maintenant, en fait, permettre qu'elle se développe, qu'elle devienne un arbre et pour permettre aux autres, en fait, de profiter de ce que tu as vécu? Oui, c'est l'occasion, en fait, de dire, j'ai fait l'expérience du Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur et maintenant, je vais permettre à cette rencontre de fleurir, de porter du fruit et de permettre à ceux qui sont autour de moi de profiter. C'est ça le levain. Quand on le met dans la farine, ça permet à la pâte de lever et de permettre au plus grand nombre de personnes d'en profiter. Quand on sème une graine de moutarde, c'est vrai, elle pousse, elle profite aux arbres, mais la graine, une graine initiale, devient peut-être 10 000 grains à la fin. Est-ce que je veux s'aimer plusieurs Jésus dans le cœur des personnes? Est-ce que nous allons être des semeurs du Christ? Je voudrais tout simplement vous envoyer en mission à travers ce que nous avons vécu ici, à travers les 4 jours que nous avons passés ensemble, en disant, voilà, j'ai reçu de la joie, j'ai reçu de l'accueil, j'ai reçu de la grâce, j'ai rencontré des personnes. Moi aussi, je vais aller à la rencontre des autres. Je ne vais pas attendre que les gens viennent vers moi. Je vais aller vers les autres et je vais leur parler de ce que j'ai reçu. Je vais aller vers les autres pour semer dans leur cœur la graine de joie que j'ai reçue, la graine d'amour que j'ai reçue, la graine de grâce que j'ai reçue. En fait, être tout simplement la lumière du monde et le sel de la terre. Oui, donnons le goût à notre pèlerinage. Donnons le goût à notre équipe. Donnons le goût à notre groupe. C'est à vous d'en donner. Ce n'est pas juste à la taupe. Ce n'est pas juste à ceux qui sont à Rome, à l'organisation générale. C'est à chacun de nous. À la manière dont nous allons participer à ce pèlerinage, c'est ça qui donnera le goût. Quand vous allez vous rappeler cette année 2025, quand vous allez vous rappeler cet été 2025, le séjour ici, en fait, il faudrait que vous ayez gardé des souvenirs, que vous ayez gardé des personnes, que vous ayez gardé des visages. Quel visage je veux garder aujourd'hui? Que nous puissions prier les uns pour les autres, que nous puissions prier pour que ce que nous avons témoigné sur cette paroisse puisse porter du fruit. Juste un petit témoignage. Hier, à la fin de la messe, quand on avait fini, on avait fait notre flash mob, on avait déjà presque tout rangé et on était sur le point de rentrer. Il y a une dame qui avance et elle pose la question, qu'est-ce que vous faites? Et on dit, on est en train d'aller au jubilé des jeunes à Rome. Et elle dit, comment j'ai fait pour participer à ça? Tout simplement parce qu'elle vous a vu exprimer votre joie, votre amour de vivre ensemble. Et j'ai tout simplement appelé le père Cristiano pour qu'il puisse prendre soin d'elle. Ils se sont rencontrés ce matin pour voir comment faire pour qu'elle puisse aller à Rome. Et peut-être nous pouvons prier pour cette dame. C'est l'occasion, peut-être c'est le Seigneur qui va passer comme ça pour permettre à cette personne de le rencontrer. On ne sait pas ce que nous sommes, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de s'aimer dans cette paroisse, dans cette ville. Mais nous sommes là pour s'aimer. Nous sommes là comme le semeur de samedi, il est sorti pour s'aimer, il a jeté les grains. Oui, c'est bon. Même si l'ennemi viendra s'aimer autre chose, ce n'est pas notre problème. C'est bon la joie, c'est bon la foi, c'est bon l'amour, partout où nous passons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Annie.